France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le 13 avril 1913, Jean-Pierre Brisset, 77 ans, débarquait d'Angers à la gare Montparnasse où il fut accueilli par un cénacle d'écrivains présidé par Jules Romain. Brisset lui avait peu avant envoyé deux de ses livres, textes étranges dans lesquels il démontrait entre autres que les grenouilles sont nos ancêtres et qu'elles parlent le français. Jules Romain les tint pour ceux d'un fou, mais comme il le raconta plus tard dans ses mémoires, ceux d'un fou très logique et plein d'un certain genre d'érudition. Il conçut alors le projet d'un canular et décerna à Jean-Pierre Brisset le titre officiel de prince dépenseur qu'il lui pria de venir recevoir à Paris. Si le dit prince est mort sans avoir tout à fait compris la nature de la supercherie, l'histoire a pris par la suite une tournure intéressante. Nombreux sont en effet ceux qui, d'André Breton à Michel Foucault, en passant par Raymond Queneau, ont loué le talent littéraire de Brisset. Alors, fou, mystificateur, pataphysicien involontaire ou auteur de génie, que faut-il penser de ce drôle d'écrivain? Le 1er avril 1971, Roger Vrigny, Roger Gouze et Evelyne Schlumberger donnaient leur point de vue dans les matinées de France Culture. Sachez, si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, que les œuvres complètes de Jean-Pierre Brisset ont depuis été publiées aux éditions Les Presses du Réel.
Roger Gouze et Evelyne Schlumberger, très souvent au cours de nos matinées littéraires, vous avez évoqué pour nous des points d'histoire littéraire et même quelquefois des curiosités de l'histoire littéraire. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, vous allez nous en proposer une. Y a-t-il une affaire Brisset? Et d'abord, qui est Brisset? Roger Gouze.
À vrai dire, ce Brisset, qui est exhumé par une collection dont nous parlerons tout à l'heure, ne dira sans doute rien à la plupart de nos auditeurs. Et pourtant, je crois qu'il est intéressant, en effet, de s'occuper de ce personnage qui pose un certain nombre de problèmes.
Et qui a intéressé des littérateurs.
Le problème de la gloire ou de la renommée littéraire, le problème des faux ou des vrais talents, le problème de l'art ou de la manière de s'en servir, peut-être même pour duper le monde, et puis peut-être même aussi le rapport du génie et de la folie. Et je voudrais aussi raconter cette histoire parce que c'est un des plus beaux canulars, en tout cas l'un des plus réussis, me semble-t-il, de l'histoire littéraire qui pourtant en compte d'assez fameux.
Et nous connaissons votre goût pour le canular. Peut-être est-ce vos souvenirs d'étudiants. Enfin, de toute façon, vous aimez bien les mystifications littéraires.
Les pastiches.
Voilà, c'est vrai. Au fond, j'aime assez décaper les fausses gloires avec cet acide du canular. Mais revenons à Jean-Pierre Brisset. Permettez-moi de vous rappeler, Evelyne Schlumberger d'ailleurs, que vous jouez un rôle capital dans cette aventure, puisque c'est vous qui avez mis le feu aux poudres en nous révélant la résurrection de Jean-Pierre Brisset. Et au fond, je préfère vous laisser raconter votre découverte.
Oui, enfin, c'est ma petite découverte personnelle. Voilà de quoi il s'agit. Vous savez comme moi que Jules Romain a publié récemment un recueil de souvenirs, Amitiés et rencontres, où il évoque les écrivains, les comédiens, enfin les personnages plus ou moins célèbres qu'il a eu l'occasion de rencontrer. Et parmi ces personnages célèbres, il en est justement de pas du tout célèbre, et même d'inconnu. Et c'est ainsi que j'ai découvert le nom d'un certain Jean-Pierre Brisset, à propos duquel Jules Romain racontait toute une histoire. Et j'ai demandé à Jules Romain, autour d'une interview, de quoi il s'agissait. Et c'est alors qu'il m'a dit que ce Jean-Pierre Brisset, en fait, était un auteur naïf et, à la vérité, semble-t-il, complètement fou, qui, vers 1910 ou 1912, avait adressé à Jules Romain un livre absolument délirant, si délirant que Jules Romain avait eu l'idée, avec quelques amis, de monter autour de ce Jean-Pierre Brisset tout un canular, en le faisant élire publiquement à Paris prince des poètes.
C'était le canular. La tradition des copains.
Exactement. Le canular avait très très bien marché. Tout le monde avait été dupé, depuis la presse parisienne jusqu'au pauvre Brisset lui-même, qui n'avait jamais su qu'on s'était moqué de lui. Or, après cet entretien avec Jules Romain, je reçois un livre, tout fraîchement édité, intitulé « La grammaire logique et la science de Dieu », édité par les éditions Tchou, dans la collection « Rhétorique et langage » que dirige Denis Roche, livre donc fort sérieux, et au-dessus du titre, je lis le nom de l'auteur, Jean-Pierre Brisset. Impossible donc de ne pas faire le rapprochement, et je me dis, est-ce le même Brisset dont s'est moqué Jules Romain, et que voici maintenant pris au sérieux.
J'ai proposé d'y aller voir un peu plus près, Et il me semble que ce que j'ai découvert n'est pas tout à fait inintéressant et peut même devenir parfois assez instructif.
Bon, alors, peut-être avez-vous découvert d'abord qui était ce Jean-Pierre Brisset.
Oui, et bien d'abord, j'ai ouvert le livre qui était republié par les soins de messieurs Rochefoucauld. Le titre en est, en effet, « La grammaire logique suivie de la science de Dieu ». Mais j'ai découvert à la Bibliothèque nationale que Brisset avait publié plusieurs moutures de sa pensée dès 1900. Il avait fait paraître la création de l'homme et même une sorte de résumé de ses idées sur une feuille de 4 pages qu'il vendait ou qu'il essayait de vendre lui-même pour 10 centimes et qui s'intitulait « La grande nouvelle, la véritable création de l'homme, la résurrection des morts, tous les mystères expliqués par Jean-Pierre Brisset ».
C'est très alléchant.
Oui, alors, c'est alléchant, ça.
Dans quel sens vont donc ces recherches ?
Eh bien, elles ont, m'a-t-il semblé, 2 aspects principaux. Elles sont à la fois philologiques et métaphysiques. Mais au fond, tout repose sur une affirmation fondamentale. L'homme descend en droite ligne de la grenouille.
Oui, il y a une obsession de la grenouille.
Ah oui, oui, oui. Ah, j'en ressens,
ce,
non ?
Voilà. Ce qui explique d'ailleurs que messieurs Rochefoucauld aient placé sur la réédition des œuvres de Brisset une énorme grenouille qui surprend pour l'illustration d'un livre intitulé « Grammaire logique et science de Dieu ».
Mais peut-être Jean-Pierre Brisset voulait-il précisément surprendre.
Ou ceux qui ont réédité ses œuvres. En tout cas, le livre tient les promesses de la couverture, mais il me semble que le mieux est de donner la parole à l'auteur par la voix, qu'il veuille m'en excuser, de Roger Vrigny.
La grenouille fait entendre clairement les cris « coac », coec, coec, pour appeler à la coaction, et quick ou quick, en échappant au danger. Coac ou coac s'analyse que oac, ici o a ce lieu. Coac égale co, ou encore accède ou approche. Ce sont des appels de la femelle. Un jour que nous observions ces jolies petites bêtes, en répétant nous-mêmes ce cri « coac », l'une d'elles nous répondit, les yeux interrogateurs et brillants, par 2 ou 3 fois « coac ». Il nous était clair qu'elle disait « quoi que tu dis ». Le son de la voix et la modulation du chant de la grenouille ont déjà quelque chose d'humain. Ses yeux, son regard sont semblables aux nôtres. Et aucun animal ne possède une grâce corporelle, du talon au cou, qui le rapproche autant de celle du corps humain. Peu de personnes même ont cette partie aussi élégante.
Il convient d'ajouter que la sexualité, celle de la grenouille autant que celle de l'homme, joue un rôle important dans la pensée de Jean-Pierre Brisset. Il explique longuement, je le cite, que la venue du sexe chez cet ancêtre fut la nouveauté qui modifia les cris de la grenouille. Et il s'excuse de ne pouvoir analyser tous les mots créés par la force sexuelle. Il avoue qu'il faudrait pour cela braver la pudeur publique.
En 1910.
Oui, justement, une pudeur qui depuis en a vu d'autres. Il se contente d'analyser longuement le mot « sexe » lui-même. Et c'est d'ailleurs ce que messieurs Roche et Foucault, avec la grenouille sur la couverture, ont placé sur la bande pour intéresser le public en un temps où tout de même le sexe se vend mieux qu'en 1900.
Oui, mais aussi pour donner un exemple de la démarche linguistique. Oui. Propre à Jean-Pierre Brisset, enfin via la grenouille,
oui.
Celle du calembour.
Voilà. Alors la bande reproduit ce calembour qui est presque incompréhensible si on ne le voit pas écrit. C'est que c'est, cet excès, c'est le sexe. Et voici un exemple de ces variations à base de calembour sur le sexe. Brisset écrit « Tu sais que c'est bien ». Tu sais que c'est bien.
C'est-à-dire qu'il faudrait dire « Tu sais que c'est bien ».
Oui, voilà.
Tu sais que
c'est bien. Tu sais que c'est bien. Le mot « tu » désigna le sexe. C'est un terme enfantin. Cache ton « tu », ton « tutu ». « Tutu » égale ton sexe. « Tu relus tutu », tu reluques ton sexe. « Tu relus tutu », répétait avec dépit celui qui était l'objet de cette démarche blessante. Il y en a des pages de cet encre.
Je précise que nous fermons ici les guillemets que vous avez cités,
oui.
Brice. Mais je croyais que ce livre s'intitulait « La grammaire logique ». Où est donc la grammaire dans tout cela ?
Bon, alors excusez-moi, évidemment, j'ai...
Car la logique y est, en tout cas.
J'ai commencé plutôt par la science de Dieu et la création de l'homme, parce que j'ai pensé qu'il valait mieux créer l'homme à partir de la grenouille avant d'étudier sa grammaire. Fut-elle logique ? D'ailleurs, il s'agit autant de linguistique, de phonétique que de grammaire. La partie strictement grammaticale m'a paru plutôt ennuyeuse et confuse. Mais voici un extrait d'un chapitre important de la grammaire logique qui est intitulé « Révélation ».
On n'avait aucune idée de la durée du temps. Le soleil se montrait et s'en allait sans qu'on pût se l'expliquer autrement que par une volonté personnelle.
Volonté personnelle du soleil, de s'en aller et de revenir.
Il était donc attendu avec impatience s'il allait ne pas venir. Enfin, le voilà qui s'annonce. Entendez les cris de bonheur. You, 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 joie, je, jour, you, pipi, salut père, Jupiter, Jupiter, you, didi, salut les didi. Les premiers hommes s'appelaient Didi, Di. Nous avons conservé ce mot pour interpeller ceux qui nous sont le plus chers, heureux ceux qui sont des Di, car ils sont des dieux. Quand on s'adresse à un ami en lui disant « Di », cela ne signifie pas « parle ». Il faut d'abord qu'il sache ce qu'on lui veut. « Di », c'est le nom de l'ami qu'on tutoie. Les premiers hommes avaient des pronoms « mi » et « di » pour « moi » et « toi ». Ils étaient absolument nus. Quand la pluie tombait, la sensation plus ou moins désagréable leur faisait pousser les cris les plus bizarres « Yo, yo, oh, oh, agagag !» Ceux qui étaient auprès d'un cours d'eau ne manquaient pas de s'y jeter. C'est de ce temps que date l'universel proverbe « se jeter à l'eau de crainte d'être mouillé ». Mais la pluie se faisait-elle désirer ? C'était des « mio, mio, à moi de l'eau, pio, pio, père ». De l'eau. Les dieux ne miaulaient pas dans le sens que l'on entend ce mot aujourd'hui. C'est le premier verbe pour prier, demander. Comme le chat ne se fait entendre que pour demander quelque chose. Cette expression du premier âge lui est restée en propre. Miauler, piauler, piailler, prier et parler. Voilà sans doute la filière.
Bon.
Il y a une filière, mais où est la logique ?
Voilà. Alors, maintenant, il me paraît intéressant de voir comment M. Rochefoucauld présente cette œuvre. Et vous allez, Roger Vrilly, nous lire quelques extraits de la préface de M. Foucauld.
Dans cette réédition de Jean-Pierre Brisset.
Chercher l'origine des langues pour Brisset, ce n'est pas leur trouver un principe de formation dans l'histoire, un jeu d'éléments révélables qui assure leur construction, un réseau d'universelles communications entre elles. C'est plutôt ouvrir chacune sur une multiplicité sans limite, définir une unité stable dans une prolifération d'énoncés, retourner l'organisation du système vers l'extériorité des choses dites. La répétition phonétique ne marque pas la libération totale du langage par rapport aux choses, aux pensées et au corps. Elle ne révèle pas sur le discours un état d'apesanteur absolue. Elle enfonce, au contraire, les syllabes dans le corps. Elle leur redonne fonction de cri et de geste. Elle retrouve le grand pouvoir plastique qui vocifère et gesticule. Elle replace les mots dans la bouche et autour du sexe. Elle fait naître et s'effacer dans un temps plus rapide que toute pensée un tourbillon de scènes frénétiques, sauvages ou jubilatoires, d'où les mots surgissent et que les mots appellent. Plutôt qu'une fuite des idées, à partir d'une itération verbale, il s'agit d'une scénographie phonétique indéfiniment accélérée. C'est bien dit,
n'est-ce pas ?
Ça, c'est donc la prose de M. Foucauld. Alors, j'en reviens tout de même à notre propos. Donc, pour M. Roche et Foucauld, voici une œuvre à considérer avec le plus grand sérieux.
Oui, si on en juge par la préface quand même.
C'est ça. Pour Jules Romain et ses amis, c'est l'œuvre d'un fou, tout juste bonne à justifier un canular. Ce canular, messieurs Roche et Foucauld, qui redécouvrent Brisset en 1970, n'ont pas dû l'ignorer. Qu'en disent-ils ? Car enfin, qui était cet auteur, tombé dans notre ciel de 1970 comme un aérolite, après être tombé dans celui de 1913 comme un pavé dans la mare ?
Oui, on a envie de dire que la mare aux grenouilles. Eh bien,
et je pense, Roger Gousse, que les surréalistes ne l'avaient pas ignoré.
Voilà, voilà. Et là, justement, nous allons... parler
oui.
dans un instant, mais si vous voulez, je crois oui. qu'il faudrait tout de même dire d'abord ce que M. Roche et Foucauld nous disent de Brisset.
Oui.
Et ce qu'ils nous en disent, eh bien, c'est dans le paragraphe 7 de la préface, intitulé « Ce que nous savons de Brisset ». Paragraphe 7, qui donne la liste des 7 publications connues de Brisset, relate 7 faits de sa vie, et on ne peut pas croire qu'on n'ait pas voulu mettre dans ce chiffre 7 quelque intention symbolique ou magique. Et d'ailleurs, la préface toute entière est intitulée par Foucauld « 7 propos sur le 7e
Nous sommes en plein ésotérisme.
Voilà.
Enfin, tout ça est décidément de plus en plus étrange.
Oui, mais vous savez, les fous offrent toutes les étrangetés qu'on veut. Donc, on nous apprend que Brisset était officier de police judiciaire, que sa grammaire logique présentée à l'Académie française a été rejetée par Renan, honte à lui, qu'un soir de juin 1883, Brisset, conçu le mystère de Dieu, détail qui me paraît capital en effet, que le 29 juillet 1904, le petit Parisien parla de lui, d'ailleurs anonymement, dans un article intitulé « Chez les fous », que Brisset organisa une conférence le 3 juin 1906 annoncée ainsi « L'archange de la résurrection et le septième ange de l'Apocalypse feront entendre leur voix ». 50 auditeurs se présentèrent et Brisset, vexé, déclara qu'il se tairait à jamais. Eh bien, voilà, c'est tout ce qu'on nous dit sur, oui. Brisset.
Oui, mais alors, le canular de Jules Romain, alors, motus.
Eh bien, pas un mot. Pas un mot. Alors, évidemment, j'y suis allé voir et voici ce que j'ai trouvé, grâce en particulier au récit qu'on fait de ce canular, Georges Duhamel dans Le Temps de la Recherche, Jules Romain dans Amitié et Rencontre, et surtout grâce aux très nombreux articles de presse qui ont paru à l'époque dans tous les journaux. Et tout d'abord, c'est Jules Romain qui, en 1913...
lance l'affaire.
Mais oui, alors, professeur, c'est lui qui a lancé l'affaire. Voilà, il est professeur au lycée de Laon et il a l'idée de ce canular. En effet, il vient de recevoir dans son courrier deux volumes signés Jean-Pierre Brisset et probablement envoyés par l'auteur qui publiait à son compte et qui annonçait sur la couverture « Chez l'auteur, en gare d'Angers ». Il précisait d'ailleurs sur la page de garde de la première édition « En attendant que le grand Dieu Tout-Puissant nous envoie un fils de Dieu, un homme hardi pour publier nos œuvres, nous sommes notre propre éditeur. » Et écoutons ici Jules Romain qui évoque lui-même ses souvenirs.
« Je me plongeais dans la lecture des deux volumes et je m'aperçus très rapidement que j'avais affaire à un fou. Un fou très logique, plein d'un certain genre d'érudition, mais à un fou. Ce détail n'était pas pour me déplaire, bien loin de là. Son dada était la philologie, mais une philologie abracadabrante. Au moyen d'élucubrations plus que fantaisistes, de raisonnements plus ou moins scabreux, il avait un goût très fort pour l'érotisme, il établissait sans le moindre doute que l'homme descend de la grenouille, comme le prouve sa tendance, dont je ne m'étais pas moi-même avisé jusque-là, à prononcer le mot « couac » à la moindre provocation. Normalement, après m'être amusé pendant un moment, j'aurais dû hausser les épaules et en rester là. Mais il faut croire que j'étais dans des dispositions d'esprit particulières et je ne tardais pas à entrevoir d'une façon encore tâtonnante ce que l'on pouvait tirer de cette manne providentielle qui me tombait du ciel.
Oui,
alors qu'allait-il en tirer?
Alors, Jules Romain entre en rapport avec Brisset et il lui demande d'envoyer ses œuvres à d'autres écrivains, Duhamel, Arcos, Vildrac, qui sont des amis...
Ceux de l'abbaye, alors.
Voilà, oui. Qui sont des amis que Jules Romain prend soin d'avertir, d'ailleurs, de ce qui les attend. Alors, donnons maintenant la parole à Georges Duhamel.
La mode était alors de nommer des princes parmi la société littéraire. On avait fait un prince des conteurs, on venait d'élire un prince des poètes. Nous formâmes donc le dessein de porter Pierre Brisset à la dignité de prince des penseurs. L'élection fut bien préparée, puis annoncée dans les feuilles. Elle eut lieu dans un café au pied de la colline de Montmartre. Mac Jacob, monocle à l'œil, présidait au dépouillement du scrutin. Le résultat fut triomphal. Pierre Brisset arrivait bon premier, bien loin devant Bergson, Boutroux et divers autres. L'information, qui prend ses renseignements où elle les trouve, accueillit cette sentence avec un étonnement respectueux.
Oui, alors en effet, la presse...
Nous retrouvons ce respect du reste à notre époque.
Oui, en effet, la presse se fait l'écho de cette élection et on envoie un télégramme de félicitations à l'heureux élu qui répond avec émotion.
Car le pauvre Brisset y a cru.
Mais comment ? Il y crut même si bien que Romain, Duhamel, Arcos, Vildrac et leurs amis décident de corser l'affaire. Ils fondent un comité Brisset qui organise à Paris le dimanche 13 avril 1913 une journée Brisset où sera fait le prince des penseurs. Jules Romain en rappelle d'ailleurs le programme qui fut imprimé, qui fut largement diffusé. Réception à la gare Montparnasse, banquet, discours, conférence publique, interview, rien n'y manquait et le programme fut fidèlement exécuté. Toute la presse s'en fait l'écho. Le Figaro, Le Matin, le journal, Excelsior. Par exemple, on voit la photographie de Jean-Pierre Brisset en première page des journaux et voici le récit de son arrivée à la gare Montparnasse par Jules Romain.
Le comité, sur son 31, plusieurs d'entre nous portaient jaquettes et chapeaux de forme, se trouvait là, entourant une jeune personne vêtue de gaze légère, son costume frisait presque l'indécence. C'était un modèle qu'un de nos amis peintres, sans doute Picard-Ledoux, avait recruté. elle était chargée de présenter les fleurs au prince.
Alors, les journaux nous décrivent Brisset, je cite, comme un petit vieillard proprement vêtu de noir, il a le front chauve, ses rares cheveux sont d'un beau blanc, sa voix est blanche aussi, et son âme paraît candide. Il marche à petits pas avec une componction qui ne peut manquer d'en imposer, il débarque de son train d'Angers, une petite valise fauve à la main. Et Excelsior précise, c'est M. Jules Romain, chef de l'école unanimiste, qui lui donna l'accolade. Et il y avait dans la quadruple haie qui lui rendait les honneurs, M. Duhamel, Arcos, Vildrac et de nombreux poètes. Le matin écrit, alors une métaphysicienne du Tréteau clama sous le hall des strophes pathétiques. C'est en ce lieu que le prince lut un premier discours, il devait en prononcer plusieurs dans la journée, et que dans un langage auguste, il loua Dieu et ses ouvrages à lui, Pierre Brisset. Le Figaro raconte la suite. On fit monter Brisset dans un grand landau à deux chevaux qu'il emporta vers un restaurant. Le vieillard s'assit à la place d'honneur, on l'appelait maître, on l'accablait sous les hyperboles, on se confondait en admiration sous ses moindres mots. Vint le dessert, M. Duhamel se leva et prononça un discours burlesque que le septuagénaire écouta gravement. « Le sage pense et ne se rend pas », disait M. Duhamel. Pierre Brisset hochait la tête comme à l'énoncé d'une vérité évidente. Et enfin, au bruit des applaudissements, il prononça lui-même quelques paroles. « Tous ces honneurs, je les accepte d'un cœur reconnaissant. » C'est à Jules Romain que je dois cette gloire. C'est de lui que Dieu s'est servi pour changer mon obscurité en célébrité. Toute l'humanité ne forme qu'un corps. On a toujours vécu et on ne mourra pas. Ceux qui ont lu mes livres ont cette certitude.
La gloire tourne la tête de tout le monde, fou ou pas ?
Alors le Figaro poursuit. Chacune de ces phrases était saluée de clameurs enthousiastes, on s'amusait bien, mais l'heure approchait où l'on devait mener le vieillard sur la place du Panthéon afin que le prince des penseurs rendît visite aux penseurs de Rodin.
Aha.
À 3 heures, une centaine de jeunes gens se trouvaient réunis derrière les grilles. Lorsque le landau arriva, ils se découvrirent et crièrent « Vive Brisset !» Il prononça un discours, il dit qu'il était un personnage semblable à Jésus et à Jeanne d'Arc, chargé d'une mission d'en haut, et enfin, poursuit le Figaro, il ne trouva quelques paroles judicieuses que lorsqu'examinant l'œuvre de Rodin, il remarqua que, je le cite, « Pour penser, on n'est pas obligé de quitter ses vêtements et de se contorsionner comme on le voit sur ce chef-d'œuvre. » Lorsqu'il eut achevé, on applaudit longuement, on cria, on acclama et on le fit remonter dans son landau.
En somme, Brisset était enchanté.
Mais c'est évident, il avait un public, une tribune, on l'acclamait. Il était bien trop sûr de lui, comme le sont d'ailleurs la plupart des fous, pour douter de cette gloire qui lui venait si subitement.
Mais alors, pas un nuage, pas une fausse note?
Ah ben si, tout de même. Devant le Panthéon, il y eut un mouvement de foule en faveur de Bergson, qui provoqua une légère bousculade.
Mais ah oui, parce que Bergson avait été éliminé dans le vote.
Oui, oui. Mais enfin, vous me permettrez de penser que cette contre-manifestation devait être à peu près aussi spontanée que la manifestation elle-même. Et à 5 heures, raconte Le Matin, pour une conférence, le maître était attendu dans la salle des sociétés savantes par un peuple impatient qui l'instruisit de ses origines. « L'homme descend de la grenouille », affirma le penseur. « J'en trouve la preuve dans cette observation irréfutable que les batraciens comme nous ont 5 doigts au bout de chaque membre. Darwin s'est trompé, que l'on ose me contredire. »
Et je suppose que personne n'osa, bien sûr, le contredire.
Même pas une grenouille.
Mais les organisateurs devaient être extrêmement heureux que tout marche aussi bien.
Et en effet, tout
marchait. La vie littéraire était bien agréable.
C'est étonnant, ben oui.
Elle était gaie, surtout.
Mais oui, et alors tout a marché jusqu'au bout du programme. Il y a eu le grand banquet populaire dans les salons Robert rue Saint-Honoré. Le menu qu'on nous a conservé portait en première page le buste de Brisset surmonté d'une couronne de laurier tenue par 2 grenouilles. Il y eut de nouveau des
J'espère
discours.
J'espère qu'on lui en a fait manger les cuisses, non?
Eh ben, non, il n'y en avait pas. Des délégués étrangers ont pris la parole en allemand, en italien, en espagnol. Stupeur, Brisset répondit dans ces mêmes langues.
Mais il était polyglotte.
Ben oui, ce n'est d'ailleurs pas contradictoire. On peut être fou et polyglotte. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire de la servante du rabbin qui, inculte et illettrée, se met à parler hébreu pendant son agonie. Au fond, la mémoire n'est pas du tout déniée aux fous. Et bien au contraire, je crois qu'elle est souvent, dans certains cas de folie, monstrueusement développée. Enfin, un Tchèque prit la parole, alors là, Brisset dut renoncer. Et puis, le délégué d'une université belge se mit à l'encenser en patois wallon, et dans une salle voisine, il y avait un orchestre de bigophones et d'ophicléides, nous raconte le journal Excelsior, qui jouait les hymnes nationaux. La jeunesse studieuse des plus lointaines latitudes, dit encore le journal, avait fait marcher le télégraphe et les câbles en l'honneur de Brisset. C'était l'apothéose. Le prince des penseurs se pencha vers son voisin et lui murmura: quand on a vécu cela, on peut mourir.
Eh bien, moi tout de même, je vous avoue que j'éprouve un peu de gêne devant cette mystification. Mystification tout de même d'un honnête homme, d'un vieillard, fou ou pas.
Mais oui, moi aussi, mais vous le savez, la jeunesse est cruelle. Et puis, il s'agissait en même temps de se moquer de tous ces princes qu'on élisait à tort et à travers. Et aussi, il s'agissait un peu de mystifier les badauds, peut-être aussi de mystifier la presse, qui est toujours prête, au nom du sensationnel, à avaler un peu n'importe quoi.
Oui, mais est-ce que vous pensez que la presse a marché? Enfin, le ton de ce que vous nous avez lu.
Eh bien, écoutez, Jules Romain prétend que la presse a marché, mais moi, je pense qu'il se trompe un peu. Je crois plutôt que la presse a suivi en souriant d'un côté et en faisant de l'autre un petit clin d'œil complice. D'ailleurs, elle semble n'avoir pas toujours su très bien, elle aussi, si ce banquet de la pensée, c'était de la chair ou du poisson. Le Figaro, sous la plume d'un de ses chroniqueurs, Louis Lazarus, réagit d'ailleurs assez violemment. Il intitule son article « La victime ».
Ah, oui.
Et il raconte toute la journée du 13 avril 1913 en ponctuant son récit de remarques de ce genre. Pierre Brisset souriait à ses bourreaux. Ou encore, j'aime à penser que leur farce trop bien réussie leur sembla lourde à mener plus loin. Et il conclut, je ne puis trouver plaisant qu'on ait posé sur cette tête blanche une couronne dérisoire.
Mais enfin, ce pauvre Brisset, une fois rentré chez lui, a bien dû lire cet article, par exemple, et voir qu'il avait été mystifié. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il ne s'est pas retourné contre ses bourreaux, Jules Romain, Duhamel et tous les autres?
Alors, bien au contraire. Écoutez d'ailleurs ce qu'écrit Jules Romain.
Le jour où parut l'article du Figaro, je recevais de Brisset un télégramme chaleureux où il se disait prêt à me soutenir à fond contre une cabale inspirée par la jalousie et la méchanceté et où il m'assurait encore une fois de sa reconnaissance indéfectible. De fait, il ne cessa jamais de me témoigner cette reconnaissance. Quand il mourut, quelques 10 ans plus tard, je crus devoir me rendre à Angers pour son enterrement. Des membres de sa famille m'accueillirent avec émotion et m'assurèrent qu'ils n'avaient cessé de chanter mes louanges et d'évoquer cette journée du 13 avril 1913 qui avait été la plus belle de sa vie.
Oui, et même Jules Romain raconte qu'après sa mort, Brisset lui fit remettre une petite somme d'argent pour perpétuer sa mémoire.
Qu'en ont-ils fait ?
Avec quoi, d'ailleurs, jusqu'en 1937, Jules Romain raconte qu'il réunissait chaque année dans un déjeuner les acteurs principaux du canular et qu'ils parlaient de Brisset entre eux.
Oui. Enfin, en résumé, à cette époque, l'affaire était tout à fait claire. Brisset était un fou et son œuvre, bonne à faire rire. Personne ne l'a prise au sérieux.
Absolument personne. Du moins, pendant encore de longues années. Mais, dans une note en tête de la réédition de 1970, on nous apprend que certains surréalistes se sont intéressés à Brisset, comme vous le disiez tout à l'heure, Roger Vrigny, tout en regrettant d'ailleurs de ne rien savoir de ce génie enfoui dans l'oubli. André Breton, par exemple, lui fait une place dans son anthologie de l'humour noir, parue en 1940. Une anthologie, d'ailleurs, je dois dire, qui m'a toujours paru assez mal faite. On y trouve un fatras de textes et de noms qui sont choisis, me semble-t-il, un peu selon l'humeur qu'on savait d'ailleurs capricieuse de Breton. Par exemple, on y trouve André Gide et pas du tout Jules Renard, qui me paraît être un des maîtres de l'humour noir. On y trouve aussi notre Brisset, précédé d'une longue note où Breton voit en Brisset, je le cite, « l'une des plus grandes singularités qu'offre l'esprit humain ». On y assiste, toujours selon Breton, à un retour de l'espèce vers l'enfance. Je pense qu'il veut peut-être dire au sens de retomber en enfance. Breton y voit, je le cite encore, « un primitivisme intégral, générateur d'un humour de grand style auquel le responsable ne participe pas ». En somme, pour Breton, Brisset serait une sorte d'humoriste malgré lui. Mais au fond, il est d'accord avec Romain et Duhamel, qui eux aussi riaient à ses dépens. Mais enfin, ce Brisset, je ne sais pas ce qui vous en paraît, Roger Vigny, mais moi, il me paraît bel et bien relevé d'une maladie mentale qui est d'ailleurs assez bien connue, à laquelle d'ailleurs Foucault fait lui-même allusion dans sa préface, mais sur laquelle il laisse planer quelques doutes. Et je me suis amusé à aller rechercher dans un manuel de psychiatrie la description de ce cas. Et c'est très frappant, voici quelques lignes. L'excitation du maniaque s'accompagne d'une suractivité verbale logoréique où s'épanouissent des besoins ludiques. Vous voyez, on retrouve bien le jeu dont vous parliez. Leur discours émaillé de termes argotiques et obscènes procède par coq à l'âne, calembour, association verbale de l'ordre le plus inférieur. Eh bien, on a vu que Brisset, en plus de sa logorée des calembours, était attiré par la sexualité. J'ajouterai que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on s'est brusquement mis à s'intéresser à lui aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui explique aussi que ce malheureux ou ce bienheureux Brisset fasse florès dans l'édition contemporaine. Par exemple, si vous ouvrez l'énorme et presque monstrueux par plus d'un point dictionnaire des citations qui vient de paraître et dont vous avez parlé ici, Roger Vrigny, vous y découvrez, coucou, le revoilà, une demi-page consacrée à Brisset à côté de Léon Poulfargue.
Et de quelles citations s'agit-il ?
Bon, on ose à peine appeler ça des citations, car ces lignes ne peuvent guère intéresser, à mon avis, que des psychiatres, mais on y retrouve le fameux « Ce excès, c'est le sexe » de la bande qu'on avait fabriquée pour la réédition.
C'était les matinées de France Culture, Mystification et Canular, l'affaire Jean-Pierre Brisset, une émission proposée par Roger Vrigny avec Roger Gouze et Evelyne Schlumberger et diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er avril 1971.